Les Misérables. Fantine. Livre quatrième. Confier, c'est quelquefois livrer. Chapitre 1. Une mère qui en rencontre une autre. Il y avait, dans le premier quart de ce siècle, à Montfermeil, près de Paris, une façon de gargote qui n'existe plus aujourd'hui. Cette gargote était tenue par des gens appelés Thénardier, mari et femme. Elle était située dans la ruelle du boulanger. On voyait au-dessus de la porte une planche clouée à plat sur le mur. Sur cette planche était peint quelque chose qui ressemblait à un homme portant sur son dos un autre homme, lequel avait de grosses épaulettes de général, dorées, avec de larges étoiles argentées. Des taches rouges figuraient du sang. Le reste du tableau était de la fumée et représentait probablement une bataille. Au bas, on lisait cette inscription « Au sergent de Waterloo ». Rien n'est plus ordinaire qu'un tombereau ou une charrette à la porte d'une auberge. Cependant, le véhicule, ou pour mieux dire, le fragment de véhicule qui encombrait la rue devant la gargote du sergent de Waterloo, un soir de printemps de 1818, eut certainement attiré par sa masse l'attention d'un peintre qui eût passé par là. C'était l'avant-train d'un de ces fardiers, usités dans les pays de forêt, et qui servent à charrier des madriers et des troncs d'arbres. Cet avant-train se composait d'un massif essieu de fer à pivot où s'emboîtait un lourd timon et que supportaient deux roues démesurées. Tout cet ensemble était trapu, écrasant et difforme. On eût dit l'affût d'un canon géant. Les ornières avaient donné aux roues, aux jantes, aux moyeux, à l'essieu et au timon une couche de vase, hideux badigeonnage jaunâtre, assez semblable à celui dont on orne volontiers les cathédrales. Le bois disparaissait sous la boue et le fer sous la rouille. Sous l'essieu pendait en draperie une grosse chaîne digne de Goliath forçat. Cette chaîne faisait songer non aux poutres qu'elle avait fonction de transporter, mais aux mastodontes et aux mammons qu'elle eût pu atteler. Elle avait un air de bagne, mais de bagne cyclopéen et surhumain, et elle semblait détachée de quelque monstre. Homère y eut lié Polyphène, et Shakespeare Caliban. Pourquoi cet avant-train de fardier était-il à cette place dans la rue? D'abord pour encombrer la rue, ensuite pour achever de se rouiller. Il y a dans le vieil ordre social une foule d'institutions qu'on trouve de la sorte sur son passage en plein air et qui n'ont pas pour être là d'autres raisons. Le centre de la chaîne pendait sous l'essieu assez près de terre et sur la courbure, comme sur la corde d'une balançoire, était assise et groupée ce soir-là, dans un entrelacement exquis, deux petites filles. L'une d'environ 2 ans et demi, l'autre de 18 mois, la plus petite dans les bras de la plus grande. Un mouchoir savamment noué les empêchait de tomber. Une mère avait vu cette effroyable chaîne et avait dit « Tiens, voilà un joujou pour mes enfants !» Les deux enfants, du reste gracieusement attifés et avec quelques recherches, rayonnaient. On eût dit deux roses dans de la ferraille. Leurs yeux étaient un triomphe. Leurs fraîches joues riaient. L'une était châtain, l'autre était brune. Leurs naïfs visages étaient deux étonnements ravis. Un buisson fleuri qui était près de là envoyait aux passants des parfums qui semblaient venir d'elle. Celle de 18 mois montrait son gentil ventre nu avec cette chaste indécence de la petitesse. Au-dessus et autour de ces deux têtes délicates, pétri dans le bonheur et trempé dans la lumière, le gigantesque avant-train, noir de rouille, presque terrible, tout enchevêtré de courbes et d'angles farouches, s'arrondissait comme un porche de caverne. À quelques pas, accroupie sur le seuil de l'auberge, la mère, femme d'un aspect peu avenant du reste, mais touchante en ce moment-là, balançait les deux enfants au moyen d'une longue ficelle, les couvant des yeux de peur d'accident, avec cette expression animale et céleste propre à la maternité. À chaque va-et-vient, les hideux anneaux jetaient un bruit strident qui ressemblait à un cri de colère. Les petites filles s'extasiaient. Le soleil couchant se mêlait à cette joie, et rien n'était charmant comme ce caprice du hasard qui avait fait d'une chaîne de titan une escarpolette de chérubin. Tout en berçant ces deux petites, la mère chantonnait d'une voix fausse une romance alors célèbre. Il le faut, disait un guerrier. Sa chanson et la contemplation de ses filles l'empêchaient d'entendre et de voir ce qui se passait dans la rue. Cependant, quelqu'un s'était approché d'elle, comme elle commençait le premier couplet de la romance. Et tout à coup, elle entendit une voix qui disait très près de son oreille « Vous avez là deux jolis enfants, madame. » « À la belle et tendre Imogine, » répondit la mère, continuant sa romance, puis elle tourna la tête. Une femme était devant elle, à quelques pas. Cette femme, elle aussi, avait un enfant qu'elle portait dans ses bras. Elle portait en outre un assez gros sac de nuit qui semblait fort lourd. L'enfant de cette femme était un des plus divins êtres qu'on pût voir. C'était une fille de 2 à 3 ans. Elle eût pu jouer avec les deux autres pour la coquetterie de l'ajustement. Elle avait un bavolet de linge fin, des rubans à sa brassière et de la valencienne à son bonnet. Le pli de sa jupe relevée laissait voir sa cuisse blanche, potelée et ferme. Elle était admirablement rose et bien portante. La belle petite donnait envie de mordre dans les pommes de ses joues. On ne pouvait rien dire de ses yeux, sinon qu'ils devaient être très grands et qu'ils avaient des cils magnifiques. Elle dormait. Elle dormait de ce sommeil d'absolue confiance propre à son âge. Les bras des mères sont faits de tendresse. Les enfants y dorment profondément. Quant à la mère, l'aspect en était pauvre et triste. Elle avait la mise d'une ouvrière qui tente à redevenir paysanne. Elle était jeune. Était-elle belle? Peut-être. Mais avec cette mise, il n'y paraissait pas. Ses cheveux, d'où s'échappait une mèche blonde, semblaient fort épais, mais disparaissaient sévèrement sous une coiffe de béguine, laide, serrée, étroite et nouée au menton. Le rire montre les belles dents quand on en a. Mais elle ne riait point. Ses yeux ne semblaient pas être secs depuis très longtemps. Elle était pâle. Elle avait l'air très lasse et un peu malade. Elle regardait sa fille endormie dans ses bras avec cet air particulier d'une mère qui a nourri son enfant. Un large mouchoir bleu, comme ceux où se mouchent les invalides, plié en fichu, masquait lourdement sa taille. Elle avait les mains hâlées et toute piquée de taches de rousseur, l'index durci et déchiqueté par l'aiguille, une mante brune de laine bourrue, une robe de toile et de gros souliers. C'était Fantine. C'était Fantine, difficile à reconnaître. l'examiner attentivement, elle avait toujours sa beauté. Un pli triste, qui ressemblait à un commencement d'ironie, ridait sa joue droite. Quant à sa toilette, cette aérienne toilette de mousseline et de ruban, qui semblait faite avec de la gaieté, de la folie et de la musique, pleine de grelots et parfumée de lilas, elle s'était évanouie, comme ces beaux givres éclatants qu'on prend pour des diamants au soleil. Ils fondent et laissent la branche toute noire. 10 mois s'étaient écoulés depuis la bonne farce. Que s'était-il passé pendant ces 10 mois? On le devine. Après l'abandon, la gêne. Fantine avait tout de suite perdu de vue Favourite, Zéphine et Dahlia. Le lien, brisé du côté des hommes, s'était défait du côté des femmes. On les eût bien étonnés 15 jours après, si on leur eût dit qu'elles s'étaient amies. Cela n'avait plus de raison d'être. Fantine était restée seule. Le père de son enfant parti. Hélas, ces ruptures-là sont irrévocables. Elle se trouva absolument isolée, avec l'habitude du travail de moins et le goût du plaisir de plus. Entraînée par sa liaison avec Tholomyès à dédaigner le petit métier qu'elle savait, elle avait négligé ses débouchés. Il s'était fermé. Nulle ressource. Fantine savait à peine lire et ne savait pas écrire. On lui avait seulement appris dans son enfance à signer son nom. Elle avait fait écrire par un écrivain public une lettre à Tholomyès, puis une seconde, puis une troisième. Tholomyès n'avait répondu à aucune. Un jour, Fantine entendit des commères dire en regardant sa fille: « Est-ce qu'on prend ces enfants-là au sérieux? On hausse les épaules de ces enfants-là. » Alors elle songea à Tholomyès qui haussait les épaules de son enfant et qui ne prenait pas cet être innocent au sérieux. Et son cœur devint sombre à l'endroit de cet homme. Quel parti prendre pourtant? Elle ne savait plus à qui s'adresser. Elle avait commis une faute, mais le fond de sa nature, on s'en souvient, était pudeur et vertu. Elle sentit vaguement qu'elle était à la veille de tomber dans la détresse et de glisser dans le pire. Il fallait du courage. Elle en eut et se roidit. L'idée lui vint de retourner dans sa ville natale, à Montreuil-sur-Mer. Là, quelqu'un peut-être la connaîtrait et lui donnerait du travail. Oui, mais il faudrait cacher sa faute. Et elle entrevoyait confusément la nécessité possible d'une séparation plus douloureuse encore que la première. Son cœur se serra, mais elle prit sa résolution. Fantine, on le verra, avait la farouche bravoure de la vie. Elle avait déjà vaillamment renoncé à la parure, s'était vêtue de toile et avait mis toute sa soie, tous ses chiffons, tous ses rubans et toutes ses dentelles sur sa fille, seule vanité qui lui resta, et sainte celle-là. Elle vendit tout ce qu'elle avait, ce qui lui produisit 200 francs. Ses petites dettes payées, elle n'eut plus que 80 francs environ. À 22 ans, par une belle matinée de printemps, elle quittait Paris, emportant son enfant sur son dos. Quelqu'un qui les eût vus passer toutes les deux eût eu pitié. Cette femme n'avait au monde que cet enfant, et cet enfant n'avait au monde que cette femme. Fantine avait nourri sa fille. Cela lui avait fatigué la poitrine, et elle toussait un peu. Nous n'aurons plus occasion de parler de M. Félix Tholomyès. Bornons-nous à dire que 20 ans plus tard, sous le roi Louis-Philippe, c'était un gros avoué de province, influent et riche, électeur sage et juré très sévère, toujours homme de plaisir. Vers le milieu du jour, après avoir, pour se reposer, cheminé de temps en temps, moyennant 3 ou 4 sous par lieu, dans ce qu'on appelait alors les petites voitures des environs de Paris, Fantine se trouvait à Montfermeil, dans la ruelle du boulanger. Comme elle passait devant l'auberge Thénardier, les deux petites filles, enchantées sur leur escarpolette monstre, avaient été pour elle une sorte d'éblouissement, et elle s'était arrêtée devant cette vision de joie. Il y a des charmes, ces deux petites filles en furent un pour cette mère. Elle les considérait, tout émue. La présence des anges est une annonce de paradis. Elle crut voir, au-dessus de cette auberge, le mystérieux ici de la Providence. Ces deux petites étaient si évidemment heureuses. Elle les regardait, elle les admirait, tellement attendrie qu'au moment où la mère reprenait haleine entre deux vers de sa chanson, elle ne put s'empêcher de lui dire ce mot qu'on vient de lire. « Vous avez là deux jolis enfants, madame. » Les créatures les plus féroces sont désarmées par la caresse à leurs petits. La mère leva la tête et remercia, et fit asseoir la passante sur le banc de la porte, elle-même étant sur le seuil. Les deux femmes causèrent. « Je m'appelle madame Thénardier, dit la mère des deux petites. Nous tenons cette auberge. » Puis, toujours à sa romance, elle reprit entre ses dents. « Il le faut, je suis chevalier, et je pars pour la Palestine. » Cette madame Thénardier était une femme rousse, charnue, anguleuse. Le type femme à soldat, dans toute sa disgrâce. Et, chose bizarre, avec un air penché qu'elle devait à des lectures romanesques. C'était une minaudière au masse. De vieux romans qui se sont éraillés sur des imaginations de gargotières ont de ces effets-là. Elle était jeune encore, elle avait à peine 30 ans. Si cette femme qui était accroupie se fût tenue droite, peut-être sa haute taille et sa carrure de colosse ambulant propre aux foires eussent-elles d'élabore effarouché la voyageuse, troublé sa confiance et fait évanouir ce que nous avons à raconter. Une personne qui est assise au lieu d'être debout, les destinées tiennent à cela. La voyageuse raconta son histoire, un peu modifiée, qu'elle était ouvrière, que son mari était mort, que le travail lui manquait à Paris, et qu'elle allait en chercher ailleurs, dans son pays, qu'elle avait quitté Paris le matin même, à pied, que, comme elle portait son enfant, se sentant fatiguée et ayant rencontré la voiture de Villemomble, elle y était montée, que de Villemomble elle était venue à Montfermeil à pied, que la petite avait un peu marché, mais pas beaucoup, c'est si jeune, et qu'il avait fallu la prendre, et que le bijou s'était endormi. Et sur ce mot, elle donna à sa fille un baiser passionné qui la réveilla. L'enfant ouvrit les yeux, de grands yeux bleus comme ceux de sa mère, et regarda. Quoi ? Rien, tout, avec cet air sérieux et quelquefois sévère des petits-enfants, qui est un mystère de leur lumineuse innocence devant nos crépuscules de vertu. On dirait qu'ils se sentent anges et qu'ils nous savent hommes. Puis l'enfant se mit à rire, et, quoique la mère la retint, glissa à terre avec l'indomptable énergie d'un petit être qui veut courir. Tout à coup, elle aperçut les deux autres sur leur balançoire, s'arrêta court et tira la langue, signe d'admiration. La mère Thénardier détacha ses filles, les fit descendre de l'escarpolette et dit « Amusez-vous toutes les trois ». Ces âges-là s'apprivoisent vite, et au bout d'une minute, les petites Thénardier jouaient avec la nouvelle venue à faire des trous dans la terre. Plaisir immense. Cette nouvelle venue était très gaie. La bonté de la mère est écrite dans la gaieté du marmot. Elle avait pris un brin de bois qui lui servait de pelle et elle creusait énergiquement une fosse bonne pour une mouche. Ce que fait le fossoyeur devient riant fait par l'enfant. Les deux femmes continuaient de causer. Comment s'appelle votre mioche ?
Cosette.
Cosette. Lisez Euphrasie. La petite se nommait Euphrasie. Mais d'Euphrasie, la mère avait fait Cosette. Par ce doux et gracieux instinct des mères et du peuple qui change Josepha en Pépita et Françoise en Sillette. C'est là un genre de dérivé qui dérange et déconcerte toute la science des étymologistes. Nous avons connu une grand-mère qui avait réussi à faire de Théodore Nion. Quel âge a-t-elle ?
Elle va sur ses 3 ans.
C'est comme mon aînée.
Cependant, les 3 petites filles étaient groupées dans une posture d'anxiété profonde et de béatitude. Un événement avait lieu. Un gros ver venait de sortir de terre, et elles avaient peur, et elles étaient en extase. Leurs fronts radieux se touchaient. On eût dit 3 têtes dans une auréole.
« Les enfants !» s'écria la mère Thénardier. « Comme ça se connaît tout de suite ! Les voilà conjureraient 3 sœurs !»
Ce mot fut l'étincelle qu'attendait probablement l'autre mère. Elle saisit la main de la Thénardier, la regarda fixement et lui dit
« Voulez-vous me garder mon enfant ?»
La Thénardier eut un de ces mouvements surpris qui ne sont ni le consentement ni le refus. La mère de Cosette poursuivit «
Voyez-vous, je ne peux pas emmener ma fille au pays. L'ouvrage ne le permet pas. Avec un enfant, on ne trouve pas à se placer. Ils sont si ridicules dans ce pays-là. C'est le bon Dieu qui m'a fait passer devant votre auberge. Quand j'ai vu vos petites si jolies et si propres et si contentes, cela m'a bouleversée. J'ai dit « Voilà une bonne mère. C'est ça, ça fera 3 sœurs. Et puis, je ne serai pas longtemps à revenir. Voulez-vous me garder mon enfant ?»«
Il faudrait voir, » dit la Thénardier.
« Je donnerai 6 francs par mois. »
Ici, une voix d'homme cria du fond de la gargote.
« Pas à moins de 7 francs, et 6 mois payés d'avance. »
« 6 × 7, 42, » dit la Thénardier.
« Je les donnerai, » dit la mère.
« Et 15 francs en dehors pour les premiers frais, » ajouta la voix d'homme.
« Total, 57 francs, » dit la madame Thénardier. Et à travers ces chiffres, elle chantonnait vaguement.
« Il le faut, » disait un guerrier.
« Je les donnerai, » dit la mère. « J'ai 80 francs. Il me restera de quoi aller au pays, en allant à pied. Je gagnerai de l'argent là-bas, et dès que j'en aurai un peu, je reviendrai chercher l'amour. »
La voix d'homme reprit.
« La petite a un trousseau ?»«
C'est mon mari, » dit la Thénardier.
« Sans doute elle a un trousseau, le pauvre trésor.
J'ai bien vu que c'était votre mari.
Et un beau trousseau encore. Un trousseau insensé, tout par douzaines, et des robes de soie comme une dame. Il est là dans mon sac de nuit. »
Il faudra le donner, repartit la voix d'homme.
Je crois bien que je le donnerai, dit la mère. Ce serait cela qui serait drôle si je laissais ma fille toute nue.
La face du maître apparut.
C'est bon, dit-il.
Le marché fut conclu. La mère passa la nuit à l'auberge, donna son argent et laissa son enfant, renoua son sac de nuit dégonflé du trousseau, et léger désormais, et partit le lendemain matin, comptant revenir bientôt. On arrange tranquillement ces départs-là, mais ce sont des désespoirs. Une voisine des Thénardier rencontra cette mère comme elle s'en allait, et s'en revint en disant
« Je viens de voir une femme qui pleure dans la rue. Que c'est un déchirement !»
Quand la mère de Cosette fut partie, l'homme dit à la femme
« Cela va me payer mon effet de 110 francs qui échoua demain. Il me manquait 50 francs. Sais-tu que j'aurais eu l'huissier et un proté ? Tu as fait là une bonne souricière avec tes petites. »
« Sans m'en douter, » dit la femme.
Chapitre 2. Première esquisse de deux figures louches. La souris prise était bien chétive, mais le chat se réjouit même d'une souris maigre. Qu'était-ce que les Thénardier ? Disons-en un mot dès à présent. Nous compléterons le croquis plus tard. Ces êtres appartenaient à cette classe bâtarde composée de gens grossiers, parvenus, et de gens intelligents déchus, qui est entre la classe dite moyenne et la classe dite inférieure, et qui combine quelques-uns des défauts de la seconde avec presque tous les vices de la première, sans avoir le généreux élan de l'ouvrier ni l'ordre honnête du bourgeois. C'était de ces natures naines qui, si quelque feu sombre les chauffe par hasard, deviennent facilement monstrueuses. Il y avait dans la femme le fond d'une brute et dans l'homme l'étoffe d'un gueux. Tous deux étaient au plus haut degré susceptibles de l'espèce de hideux progrès qui se fait dans le sens du mal. Il existe des âmes écrevisses reculant continuellement vers les ténèbres, rétrogradant dans la vie plutôt qu'elles n'y avancent, employant l'expérience à augmenter leur difformité, empirant sans cesse, et s'emprégnant de plus en plus d'une noirceur croissante. Cet homme et cette femme étaient de ces âmes-là. Le Thénardier particulièrement était gênant pour le physionomiste. On n'a qu'à regarder certains hommes pour s'en défier, on les sent ténébreux à leurs deux extrémités. Ils sont inquiets derrière eux et menaçants devant eux. Il y a en eux de l'inconnu. On ne peut pas plus répondre de ce qu'ils ont fait que de ce qu'ils feront. L'ombre qu'ils ont dans le regard les dénonce. Rien qu'en les entendant dire un mot ou qu'en les voyant faire un geste, on entrevoit de sombres secrets dans leur passé et de sombres mystères dans leur avenir. Ce Thénardier, s'il fallait l'en croire, avait été soldat, sergent, disait-il. Il avait fait probablement la campagne de 1815 et s'était même comporté assez bravement, à ce qu'il paraît. Nous verrons plus tard ce qu'il en était. L'enseigne de son cabaret était une allusion à l'un de ses faits d'armes. Il l'avait peinte lui-même, car il savait faire un peu de tout. Mal. C'était l'époque où l'antique roman classique, qui après avoir été Clélie n'était plus que Lodoïska, toujours noble, mais de plus en plus vulgaire, tombé de Mademoiselle de Scudéry à Madame Barthélemy Adot et de Madame de Lafayette à Madame Bournon Malarme, incendiait l'âme aimante des portières de Paris et ravageait même un peu la banlieue. Madame Thénardier était juste assez intelligente pour lire ces espèces de livres. Elle s'en nourrissait, elle y noyait ce qu'elle avait de cervelle. Cela lui avait donné, tant qu'elle avait été très jeune, et même un peu plus tard, une sorte d'attitude pensive près de son mari, coquin d'une certaine profondeur, ruffian lettré à la grammaire près, grossier et fin en même temps, mais, en fait de sentimentalisme, lisant Pigault le Brun, et pour tout ce qui touche le sexe, comme il disait dans son jargon, butor correct et sans mélange. Sa femme avait quelque 12 ou 15 ans de moins que lui. Plus tard, quand les cheveux romanesquement pleureurs commencèrent à grisonner, quand la mégère se dégagea de la Paméla, la Thénardier ne fut plus qu'une grosse méchante femme, ayant savouré des romans bêtes. Or, on ne lit pas impunément des niaiseries. Il en résulta que sa fille aînée se nomma Éponine. Quant à la cadette, la pauvre petite faillit se nommer Gulnare. Elle dut à je ne sais quelle heureuse diversion faite par un roman de Ducray du Ménil de ne s'appeler qu'Azelma. Au reste, pour le dire en passant, tout n'est pas ridicule et superficiel dans cette curieuse époque à laquelle nous faisons ici allusion et qu'on pourrait appeler l'anarchie des noms de baptême. À côté de l'élément romanesque que nous venons d'indiquer, il y a le symptôme social, Il n'est pas rare aujourd'hui que le garçon Bouvier se nomme Arthur, Alfred ou Alphonse, et que le vicomte, s'il y a encore des vicomtes, se nomme Thomas, Pierre ou Jacques. Ce déplacement, qui met le nom élégant sur le plébéien et le nom campagnard sur l'aristocrate, n'est autre chose qu'un remous d'égalité. L'irrésistible pénétration du souffle nouveau est là, comme en tout. Sous cette discordance apparente, il y a une chose grande et profonde, la Révolution française. Chapitre 3. L'Alouette. Il ne suffit pas d'être méchant pour prospérer. La gargote allait mal. Grâce aux 57 francs de la voyageuse, Thénardier avait pu éviter un proté et faire honneur à sa signature. Le mois suivant, ils eurent encore besoin d'argent. La femme porta à Paris et engagea au Mont-de-Piété le trousseau de Cosette pour une somme de 60 francs. Dès que cette somme fut dépensée, les Thénardier s'accoutumèrent à ne plus voir dans la petite fille qu'un enfant qu'ils avaient chez eux par charité et la traitèrent en conséquence. Comme elle n'avait plus de trousseau, on l'habilla des vieilles jupes et des vieilles chemises des petites Thénardier, c'est-à-dire de haillons. On la nourrit des restes de tout le monde, un peu mieux que le chien, un peu plus mal que le chat. Le chat et le chien étaient du reste ses commensaux habituels. Cosette mangeait avec eux sous la table dans une écuelle de bois, pareille à la leur. La mère, qui s'était fixée, comme on le verra plus tard, à Montreuil-sur-Mer, écrivait, ou, pour mieux dire, faisait écrire tous les mois afin d'avoir des nouvelles de son enfant. Les Thénardier répondaient invariablement « Cosette est à merveille ». Les 6 premiers mois révolus, la mère envoya 7 francs pour le 7e mois et continua assez exactement ses envois de mois en mois. L'année n'était pas finie que le Thénardier dit « Une belle grâce qu'elle nous fait là. Que veut-elle que nous fassions avec ces 7 francs ?» Et il écrivit pour exiger 12 francs. La mère, à laquelle il persuadait que son enfant était heureuse et venait bien, se soumit et envoya les 12 francs. Certaines natures ne peuvent aimer d'un côté sans haïr de l'autre. La mère Thénardier aimait passionnément ses deux filles à elle, ce qui fit qu'elle détesta l'étrangère. Il est triste de songer que l'amour d'une mère peut avoir de vilains aspects. Si peu de place que Cosette tint chez elle, il lui semblait que cela était pris au sien et que cette petite diminuait l'air que ses filles respiraient. Cette femme, comme beaucoup de femmes de sa sorte, avait une somme de caresses et une somme de coups et d'injures à dépenser chaque jour. Si elle n'avait pas eu Cosette, il est certain que ses filles, toutes idolâtrées qu'elles étaient, auraient tout reçu. Mais l'étrangère leur rendit le service de détourner les coups sur elle. Ses filles n'eurent que les caresses. Cosette ne faisait pas un mouvement qui ne fît pleuvoir sur sa tête une grêle de châtiments violents et immérités. Doux êtres faibles qui ne devaient rien comprendre à ce monde, ni à Dieu. Sans cesse punis, grondés, rudoyés, battus, et voyant à côté d'elle deux petites créatures comme elle qui vivaient dans un rayon d'aurore. La Thénardier étant méchante pour Cosette, Éponine et Alzéma furent méchantes. Les enfants à cet âge ne sont que des exemplaires de la mère. Le format est plus petit, voilà tout. Une année s'écoula, puis une autre. On disait dans le village « Ces Thénardier sont de braves gens, ils ne sont pas riches et ils élèvent un pauvre enfant qu'on leur a abandonné chez eux. » On croyait Cosette oubliée par sa mère. Cependant, le Thénardier, ayant appris par on ne sait quelle voie obscure que l'enfant était probablement bâtard et que la mère ne pouvait l'avouer, exigea 15 francs par mois. disant que la créature grandissait et mangeait, et menaçant de la renvoyer. « Qu'elle ne m'embête pas !» s'écriait-il. « Je lui bombarde son mioche tout au beau milieu de ses cachotteries. Il me faut de l'augmentation. » La mère paya les 15 francs. D'année en année, l'enfant grandit, et sa misère aussi. Tant que Cosette fut toute petite, elle fut le souffre-douleur des deux autres enfants. Dès qu'elle se mit à se développer un peu, c'est-à-dire avant même qu'elle eût 5 ans, elle devint la servante de la maison. 5 ans, dira-t-on, c'est invraisemblable. Hélas, c'est vrai. La souffrance sociale commence à tout âge. N'avons-nous pas vu récemment le procès d'un nommé Dumollard, orphelin devenu bandit, qui, dès l'âge de 5 ans, disent les documents officiels, étant seul au monde, travaillait pour vivre et volait. On fit faire à Cosette les commissions, balayer les chambres, la cour, la rue, laver la vaisselle, porter même des fardeaux. Les Thénardier se crurent d'autant plus autorisés à agir ainsi que la mère, qui était toujours à Montreuil-sur-Mer, commença à mal payer. Quelques mois restèrent en souffrance. Si cette mère fut revenue à Montfermeil au bout de ces 3 années, elle n'eût point reconnu son enfant. Cosette, si jolie et si fraîche à son arrivée dans cette maison, était maintenant maigre et blême. Elle avait je ne sais quelle allure inquiète, sournoise, disaient les Thénardier. L'injustice l'avait faite hargneuse et la misère l'avait rendue laide. Il ne lui restait plus que ses beaux yeux qui faisaient peine, parce que, grands comme ils étaient, il semblait qu'on y vît une plus grande quantité de tristesse. C'était une chose navrante de voir, l'hiver, ce pauvre enfant, qui n'avait pas encore 6 ans, grelottant sous de vieilles loques de toile trouées, balayer la rue avant le jour, avec un énorme balai dans ses petites mains rouges et une larme dans ses grands yeux. Dans le pays, on l'appelait l'Alouette. Le peuple, qui aime les figures, s'était plu à nommer de ce nom ce petit être, pas plus gros qu'un oiseau, tremblant, effarouché et frissonnant, éveillé le premier chaque matin dans la maison et dans le village, toujours dans la rue ou dans les champs, avant l'aube. Seulement, la pauvre Alouette ne chantait pas.